Vous écoutez la web radio du HUF en direct du Novotel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HUF.
Que ce soit dans les lointaines et blanches contrées de Russie ou bien que ce soit chez nous dans les controverses littéraires, eh bien il y a fort à faire au théâtre, bien entendu, surtout en ce festival OFF 2021. Et fort à faire, c'est notamment le cas de quelqu'un que je reçois aujourd'hui sur le plateau. Il s'agit de Valérie Durin. Bonjour.
Bonjour.
Je dis fort à faire tout simplement parce que c'est vous jouez deux spectacles dans ce festival OFF 2021, tous les deux à l'atelier Florentin qui se trouve rue Guillaume Puy. Tout d'abord, à 12h40, vous jouez Blanche Confession et en soirée, à 22h, vous jouez Corneille, Molière, l'arrangement de spectacles dont vous êtes l'interprète, mais aussi l'autrice. Ça vous...
Oui.
Vous préférez auteur, autrice ?
Autrice, absolument. Le terme disparaît au XVIIe siècle parce que les femmes n'écrivent pas. Mais c'est vraiment le féminin d'auteur. Acteur, actrice, auteur, autrice. C'est comme ça qu'on parle en français, oui, c'est ça.
D'accord, je rigole, mais ce n'est pas de la moquerie du tout. C'est parce que, en l'occurrence, la littérature du XVIIe siècle, vous la connaissez bien et comment, notamment avec ce texte Corneille, Molière, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors, je dois préciser tout de même que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit à Osmose Radio. Vous étiez déjà venu pour les éditions précédentes, notamment du Festival OFF, pour d'autres spectacles, d'autres pièces de théâtre, qui parlaient notamment, pour ma part, je vous avais découvert dans un spectacle sur la Révolution française et les réformes qu'il y avait eu à l'époque, c'était en 2015, je crois.
Tout à fait. J'ai eu la chance d'être lauréate des éditions OFF, des éditions du OFF 2015, avec cette pièce Le protégé de Robespierre.
Voilà. Et ensuite, vous étiez revenu l'année d'après avec un autre sujet historique assez clivant lui aussi. C'était Alésia, donc en 2016. Et vous revenez avec cette année deux spectacles, puisque comme tout le monde, l'an dernier, vous avez un petit peu zappé le festival OFF. Notre bien belle cité provençale était pleine de virus. Alors, par conséquent, vous n'êtes pas venu, on ne saurait vous en vouloir. Alors, Valérie Durin, votre nom est trompeur d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas alsacienne, vous venez pas du tout du Rhin, vous venez de Lyon. C'est bien ça ?
Oui, on est installé à Auxerre.
Voilà, donc avec la compagnie Arrangement Théâtre, si j'ai bonne mémoire. Voilà.
Tout à fait.
Et donc, vous venez régulièrement dans ce contexte-là, avec cette compagnie, créer différents spectacles ici, comme on vient de le dire. Mais sauf que les spectacles précédents que vous étiez venu représenter, pour la plupart, étaient avec des amis à vous que vous mettiez en scène pour ces spectacles-là. Et donc, vous étiez plusieurs sur scène. Là, en l'occurrence, c'est un seul en scène. Ce sont deux pièces de théâtre seules en scène que vous interprétez. Et on va commencer par Blanche Confession à l'atelier Florentin à 12h40, un texte qui se passe en Ukraine en fait. Et Blanche Confession, en fait, ça rappelle déjà les confessions forcées qu'il y avait sous l'époque stalinienne, mais aussi la blancheur des forêts immenses de ces contrées d'Union soviétique lors de l'hiver. Mais ça pourrait être tout aussi autre chose quand, par exemple, on fait une confession, mais d'une voix blanche, si je vous comprends bien.
Bravo, c'est exactement ça. J'avais envie de donner cette histoire de blanc, bien sûr, les neiges d'Ukraine. La morphine dans laquelle va tomber le personnage principal, mais aussi cette histoire de faire une confession qui ne sert à rien. Blanche, comme on fait un bac blanc, comme on, voilà, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai que ce n'est pas très vendeur de vous proposer comme ça. Mais je trouve que c'est vraiment bien aussi de mettre en scène nos ratages ou nos oublis. C'est vraiment une question de mémoire. Là, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui a aimé tellement fort un homme qu'elle en a reconstruit sans arrêt l'histoire. Elle va passer 1h05 à reconstruire l'histoire de l'amour pour cet homme, devenu morphinomane, un peu l'histoire de Bulgakov. Je me suis inspirée de Bulgakov, c'est un auteur, le Maître et Marguerite, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas bien.
Parce que vous êtes autrice de ces deux spectacles, de celui-ci en particulier, mais vous êtes inspirée, enfin vous disiez vous-même, quand on préparait cette interview, que vous avez été extrêmement touchée par la beauté du texte d'origine de Bulgakov et que vous avez décidé d'adapter ça au théâtre de façon assez personnelle, notamment. Alors, comment vous avez été amenée à découvrir ce texte ?
Bulgakov, c'est vraiment un auteur pour moi repère. C'est un grand auteur. Il a écrit le roman de Monsieur de Molière. C'est celui-là qui a inspiré le film de Mouchkine. Il a écrit une Maître Marguerite très connue, mais aussi, surtout, pour moi en tout cas, les récits autobiographiques, c'est-à-dire les récits du jeune médecin, Morphine, J'ai tué, sont tout un tas de nouvelles qu'il faut absolument redécouvrir. C'est magnifique, il nous transporte. Il est très très puissant cet auteur. On le connaît mal, je trouve.
Bah, en tout cas, moi, je le connais mal parce que je connaissais comme tout le monde le docteur Jivago, mais le docteur décrit par Bulgakov, je reconnais que c'est vous qui me le faites découvrir pour le coup. Mais pour ma part, je croyais que la morphine, enfin la diffusion de la morphine dans la société russe, ça datait de la guerre d'Afghanistan, où tous les soldats qui avaient été enrôlés là-bas sont revenus un petit peu dépendants de cette saloperie. Et du coup, en fait, ça existait déjà avant dans les milieux médicaux. Et ça, je l'ai découvert en lisant.
Oui, absolument. C'est quand même l'antidouleur de base. Hein. Il est utilisé depuis toujours. Et effectivement, les médecins pouvaient aussi tomber dans la morphinomanie s'ils avaient tendance à avoir des chagrins d'amour, par exemple. Là, c'est le cas. Un homme a un grand, grand chagrin d'amour, une grande neurasthénie dans laquelle il ne sort pas et il va tomber dans la morphine, ouais.
D'accord.
Dans l'addiction.
Voilà, donc l'addiction, on connaissait l'addiction, les comportements addictifs, notamment à l'amour. Et là, en l'occurrence, c'est pour oublier l'amour qu'il tombe dans l'addiction. Et alors, c'est un sujet en fait qui vous intéressait et que vous avez mis en scène parce qu'il permet d'appréhender les choses, d'appréhender un phénomène sous différents prismes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait penser avec une action qui se déroule en Ukraine en 1941, qu'il s'agit de parler des pesanteurs du système soviétique et de l'exil dans ces contrées lointaines. C'est pas forcément votre sujet, c'est peut-être juste un peu le cadre, et en même temps, vous rejoignez ce sujet-là, mais de manière extrêmement détournée, en parlant d'une histoire d'amour.
Oui, en fait, c'est quand même le sujet. Le sujet, c'est quand même aussi cet isolement, même quand on est dans des endroits très vastes, ce grand, grand isolement. Là, ça se passe dans une petite clinique isolée dans les forêts d'Ukraine, et voilà, c'est un... Peut-être que le parallèle va vous sembler un peu gros, mais le confinement dans lequel on a dû traverser m'a fait penser à cette extrême solitude qu'on peut avoir justement quand on est isolé et qu'on est resté coincé sur la même histoire d'amour. Et là, c'est vraiment l'histoire d'une femme. Je suis repartie de morphine, mais au féminin. Et c'est cette femme qui, toute seule, vraiment toute seule, parce qu'elle soigne, mais elle ne vit plus avec personne, a oublié complètement de vivre, quoi. Elle est restée arrêtée sur sa première histoire d'amour. Et en plus, c'est une soignante. Il y avait beaucoup de choses qui résonnaient pour moi, de redonner ce texte à entendre, ou en tout cas à découvrir, plus qu'à entendre. Oui, absolument.
On connaît tous des gens qui ont eu du mal à passer le cap du premier amour. Et du coup, c'est vrai que le parallèle entre le système soviétique et le confinement qu'on a vécu est audacieux. Je ne vous le cache pas, il n'engage que vous. Mais c'est vrai qu'au moins, ça nous aura donné des éléments de réflexion pour y réfléchir.
Oui,
c'est toujours ça.
Mais je pense quand même que, j'espère, je vous invite vraiment à voir le spectacle parce que je pense qu'il nous emmène, il nous embarque, quoi. C'est vraiment une histoire de voyage. Et puis aussi, il nous ramène à nos propres amours, nos chagrins d'amour, pourquoi on s'arrête d'aimer, pourquoi on a si peur d'avoir mal quand on aime. C'est assez. Pour moi, ça m'inquiète beaucoup parce que je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont arrêtés dans leurs histoires d'amour parce que ça fait trop mal. Et puis, quand on se retrouve seul, comme on a eu l'occasion de le découvrir ces derniers mois avec ce qui nous est arrivé, on se rend compte effectivement que cette solitude peut nous rendre un peu fous, quoi, peut nous décaler complètement.
Et on vit finalement plus dans une réalité parallèle. Alors aujourd'hui, elle est faite d'Internet, de jeux vidéo, de conférences Zoom, etc. Absolument. Mais elle pouvait très bien aussi être auparavant, par rapport aux livres, par rapport aux paradis artificiels liés à la drogue, ou tout simplement à la reconstruction de son propre passé, ce qui était d'ailleurs le péché mignon du système soviétique à l'époque de Staline, où effectivement on retouchait les photos, on découpait les textes et on révisait l'histoire en fonction des intérêts politiques du moment. Et toute proportion gardée, là encore, votre héroïne, Anna Kirillovna, fait un petit peu la même chose en réinventant son histoire.
Effectivement, elle va raconter quatre fois la même histoire, mais c'est quatre histoires différentes. Elle réinvente à chaque fois l'histoire. Alors, après, elle a plein de bonnes raisons pour ça. L'époque soviétique était très clairement, on voyait l'intérêt de ça. Elle essaie de se donner une vraie place dans la vie de cet homme. Et effectivement, je suis ravie que vous parliez de parallèle avec la période soviétique. L'histoire qui est en fait jamais tout à fait la même. En fait, ça dépend comment on la raconte.
Et bien,
la même histoire peut être racontée de plein de façons différentes, avec toujours la même sincérité d'ailleurs.
C'est le charme de l'historiographie hein, qui évolue en fonction des contextes politiques, tous ceux qui sont passés à la fac d'histoire ne me démentiront pas. Et par conséquent, ben là, c'est une histoire en fait, qui se passe en 1941, mais on y parle d'une histoire qui s'est déroulée, elle, en 1917. Et donc, c'est deux extrémités, en tout cas deux étapes très importantes de l'histoire de la Russie contemporaine.
Oui, et puis la guerre appelle l'autre guerre, et forcément, les atrocités qu'elle a connues en 17 sont de nouveau réveillées en 40, et c'est cette mémoire qu'elle essaie de reconstruire 25 ans plus tard. Et elle, je pense vraiment, enfin, pour moi, le thème de la mémoire et comment on re-raconte l'histoire, c'est un petit peu le fond, un thème qu'on peut retrouver au fur et à mesure des propositions, des créations théâtrales que je fais. C'est que je pense c'est vraiment pourquoi on aborde l'histoire sous cet angle-là plutôt que sous l'autre. Et quelquefois, le même personnage ou la même époque peut avoir des reliefs très différents.
Ah ben là, vous m'avez piraté ma question suivante.
Ah mince,
ça c'est très mal élevé, Valérie Durin, de lire dans mes pensées. Non mais alors. Et oui, effectivement, c'est la question que je me posais parce que pour ma part, vous y en découvert avec des sujets très franco-français. Très franco-français. Vous parliez de Racine dans un spectacle précédent. Là, vous allez parler de Corneille, de Molière. Donc, on ne sort jamais de l'Hexagone, juste on voyage dans le temps. Et là, du coup, vous nous emmenez dans les blanches contrées du Trent. Donc, voilà, j'avais un petit peu de curiosité par rapport à ce choix insolite, en tout cas, dans votre carrière d'écriture. Mais vous venez déjà, du coup, d'y répondre. Influencé par ce texte de Bulgakov, dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors, cet homme-là s'est intéressé à Molière. Vous nous parliez aussi d'Anne Mnouchkine, là encore, une Russe. Une descendante de Russes blancs qui s'est intéressée à la littérature française. Et puis on sait que ben, des gens comme Pouchkine, je crois, étaient très très admiratifs des auteurs français, notamment. Et Catherine II de Russie n'était pas en reste. Enfin bref, on ne va pas faire toute l'histoire.
Les Russes nous adorent.
Et on leur rend bien.
Et on leur rend bien.
pour ma part. c'est pas les ventes de Poliakov en France qui nous démentiront. Ah zut, j'ai cité une marque, pardon, c'est genre Poliakov et Aristophe, voilà. Et quoi qu'il en soit, ben, ce Bulgakov s'était intéressé à Molière, et bien justement, c'est à cette hauteur-là, à l'étude de cette hauteur-là, que vous nous conviez à partir de 22h, toujours au théâtre L'Atelier Florentin. Alors là, il s'agit de Corneille, n'importe quoi.
C'est un petit peu, oui, vous pouvez faire un raccourci
voilà.
Comme ça.
Voilà, Corneille et Monneille, c'est ça, bon bref.
Et Morneille, oui.
Voilà, donc après quelques bouteilles de vodka. Hein, on serait amené à faire ce genre de confusion. Mais bon, on ne veut pas savoir ce que vous faites dans les loges après le spectacle, Valérie Durin. Pour le moment, on s'intéresse à ce que vous faites sur scène. Et dans Corneille, Molière, l'arrangement. Alors déjà, il y a trois éléments dans le titre. Corneille, Molière, deux auteurs classiques incontournables. Et l'arrangement. Alors, c'est quoi ces petits arrangements dont vous nous parlez dans ce spectacle?
Alors, ben, c'est la fameuse hypothèse qui fait toujours polémique. Et moi, qui me passionne et qui m'amuse énormément. Molière n'aurait pas écrit une ligne. Molière n'avait pas le temps d'écrire et puis surtout, on n'a rien de sa main, ce qui est très troublant. Mmh. On n'a de sa main que sa très belle signature et quelques quittances chez notaire.
Jean-Baptiste Poquelin. Voilà.
Oui, Jean-Baptiste Poquelin. Et où ce fameux Molière suivi d'un étrange sigle avec un point et une barre oblique. Et on se demande ce que c'est que cette dualité, en tout cas cette duplicité. Et puis aussi, bon, c'est le 17e siècle. On n'a pas du tout la même notion de l'auteur. Presque tous les comédiens du 17e siècle étaient des auteurs. Montfleury, Floridor, Chambellé, Molière, bien sûr, c'est notre grand acteur du XVIIe siècle. Ils étaient tous auteurs. Est-ce que tous ces comédiens écrivaient? C'est la question que je me pose.
Ben, c'est en même temps, oui, pour me placer en porte-à-faux par rapport à ce que vous venez de dire, il y avait énormément de création collective. À l'époque, le théâtre était aussi quelque chose un travail d'équipe, en quelque sorte. Et par conséquent, Molière a peut-être posé son nom sur des travaux qui préexistaient ou qu'il avait mis en forme avec tous ses collaborateurs, mais sans jamais les citer. Donc, c'est peut-être plus qu'un plagiaire ou c'est peut-être juste quelqu'un qui a tiré un peu la couverture vers lui, tout simplement.
Mais ça, c'est la notion du plagiat ou du détournement de l'écriture, ça c'est très moderne, c'est le 19e siècle. À l'époque, on empruntait beaucoup au 17e, on empruntait à Plaute, à Terence, les misanthropes, les avares, etc., appartenaient déjà aux anciens. Donc,
La Fontaine qui réadaptait Ésope.
Ésope, exactement. Donc on passe son temps à emprunter, ça ne pose de problème à personne. Et puis il y avait les gens qui avaient le temps d'écrire, comme Corneille, qui était quand même le grand auteur de son siècle. Et puis il y avait les gens qui avaient le temps de jouer, d'être au lever, au coucher du roi, qui passaient leur nuit à l'auberge et qui s'appellent Molière. Donc voilà. Moi, je trouve, ça me réjouit beaucoup qu'un acteur ait passé 400 ans, qu'on continue à jouer la parole qui était donnée sur le plateau. Ça me plaît beaucoup comme idée.
Et un des textes qui ont été mis par écrit, alors qu'ils auraient pu rester dans une tradition orale aussi, c'est peut-être ce qu'on doit à Molière. Mais néanmoins, vous parliez de cette fameuse polémique, ou pour le moins controverse, qui existe dans les milieux littéraires. Et même plus généralement, pour ma part, c'est l'auteur Jean Marcal, qui n'est pas d'ailleurs spécialement intéressé par le théâtre classique du XVIIe siècle, mais plutôt par les cultures celtiques, mais qui, dans sa hargne envers certains auteurs français, avait eu quelques mots assez méchants avec Molière, qu'il considérait comme un plagiat, etc. Ça n'engage que lui, puis de toute façon il est mort, donc paix à son âme. Mais c'est lui qui avait attiré mon attention là-dessus, je n'en avais jamais entendu parler. Et par conséquent, c'est vrai qu'après j'ai eu d'autres sons de cloche où, selon lesquels il y avait énormément de soupçons, même si on n'a pas de preuves formelles, que Molière, effectivement, se serait, bah, pour reprendre votre terme, arrangé avec la mémoire, sinon avec la réalité, pour poser son nom sur des œuvres qui n'étaient pas forcément entièrement de lui. Alors on en vient, il y a différentes thèses, ce que vous venez de citer, ces créations collectives, mais il y a aussi cette controverse avec Corneille. Et là, j'aimerais savoir où est-ce que vous nous emmenez avec ce petit duel, entre guillemets.
Alors, il s'agirait d'arrangements financiers, et puisque Corneille n'avait pas le temps, lui, d'être à Paris, et il avait besoin beaucoup d'argent. Il avait une grosse maison à Rouen, pardon, j'allais dire des bêtises. Il avait une grosse maison à Rouen, il avait besoin d'argent. Et ces grandes tragédies étaient plus pour la gloire que pour l'argent. Elles étaient beaucoup moins jouées. Molière amenait beaucoup d'argent parce qu'il était extrêmement connu. Et ce que je veux aussi vous dire, mais je ne sais pas si j'anticipe votre prochaine question.
Vous allez divulguer cacher peut-être, attention.
C'est que cette histoire de Corneille, là où c'est très troublant, en tout cas moi ça me trouble, c'est qu'aujourd'hui les algorithmes d'attribution des textes reconnaissent absolument Corneille sous Molière. Et ces algorithmes, malheureusement, on doit s'incliner devant l'ordinateur aujourd'hui. Nous n'avons pas le cerveau d'un ordinateur et l'ordinateur reconnaît des choses que nous sommes incapables de reconnaître.
Ah, il y a des chercheurs qui ont fait des recoupements avec de l'intelligence artificielle.
Absolument.
Pour comparer les textes. Les
Dominique styles. Labbé, qui est d'ailleurs venu le 14 et 15 juillet accompagner mon spectacle, a mis en place un algorithme d'attribution des textes. Lui, il reconnaît par exemple absolument Émile Ajar, Romain Gary. Son algorithme ne pourrait pas nous tromper aujourd'hui, mais il est tout récent.
Émile Ajar, qui était un des pseudonymes, un des noms de plume de Romain Gary, donc dans les années 50-60.
Absolument, et il a reçu deux fois le Goncourt en se cachant sous un autre nom.
D'accord.
Et comme il y a cette polémique que Molière, effectivement, n'aurait pas eu le temps d'écrire et aurait laissé Corneille, en tout cas, écrire ses pièces en vers, il a déposé son algorithme sur les textes de Molière. Il reconnaît à 100% Corneille. Les pièces en vers, hein, j'insiste, parce que Molière serait multiple.
D'accord. Ben pour plagier Corneille, oh là là, que je sens de rude combat, hein, comme dans l'estance du Cid, et donc avec ces deux protagonistes. Donc là, c'est pas. Alors j'imagine que dans un prochain spectacle, si vous êtes intéressé par ce genre de controverse, vous nous parlerez de boxe peut-être, allez savoir. Ça s'est déjà fait, hein. Et par contre, je peux pas m'empêcher d'y voir. Alors, c'est peut-être, je vais peut-être un peu loin dans la psychologie des profondeurs là, ou dans les associations d'idées un petit peu extrêmes. Mais je peux pas m'empêcher de voir dans ces deux auteurs qui se mettaient, pour reprendre le terme de Corneille, dans la main des puissants pour y danser. Je peux pas m'empêcher d'y voir un peu une critique tout à fait contemporaine. Si c'est une critique, hein, je dis pas que c'était votre intention, mais pour ma part, j'y perçois, à tort ou à raison, le fait que, ben, encore aujourd'hui, il y a du théâtre subventionné dans lequel on peut faire des trucs qui parfois n'ont guère d'intérêt, et des théâtreux qui, eux, seraient plutôt presque sans le sou, et qui sont amenés à faire des choses avec énormément de contraintes, mais avec une rage peut-être de retrouver le public et de lui apporter quelque chose. Et rage qui se concrétise ou pas. Et par conséquent, bah, Corneille, Molière, l'arrangement, bah, c'est des gens qui faisaient des petits arrangements avec les puissants, pendant que les troupes de théâtre qui apportaient le théâtre un peu partout en France à l'époque étaient sur la route. C'était un peu le décor du Capitaine Fracasse, pour citer une autre source. Alors, est-ce que c'est moi qui vais trop loin, ou est-ce qu'effectivement il y aurait une critique légère mais larvée dans votre texte, hein, cachée dans votre, dissimulée dans vos écrits?
Non, je pense pas qu'il y ait une critique.
Je dis pas que vous essayez de cacher dans la soupe, attention, j'ai jamais dit ça.
Non. De toute façon, c'est incontestable, c'était les commandes du roi. Molière, on parle d'un Molière un peu controverseur, révolutionnaire. Enfin, Molière, c'est un homme qui obéit au roi. Il n'y a pas plus royal que Molière.
Ah ben, quand Louis XIV avait des problèmes avec les Turcs, ben Molière, on lui a demandé de se moquer.
Absolument,
des Turcs
il répond aux commandes du roi. Et lui, il a la protection royale, il est troupe du roi, il est complètement à la botte du roi. Et les pièces vraiment écrites de Molière arrivent qu'après la période, entre guillemets, pauvre, parce que moi, je pense que c'était une période très riche. Et c'est plutôt l'imagerie, grâce à Ariane Mouchkine, qui nous fait penser que la tournée en province était une période où ils mangeaient leurs chevaux pour pouvoir survivre. Non, ils étaient accueillis dans des grands châteaux, des hôtels, etc. Tout allait très bien, mais il n'y avait pas de production écrite. Et la production écrite, elle arrive que quand il arrive à Paris avec la protection royale. Donc, elle arrive en 58 avec les précieuses ridicules. Le roi veut se venger des précieuses qui se foutent de lui parce qu'il a une culture un petit peu déficiente. Et il commande les précieuses ridicules. Et Molière s'exécute. Molière, ce n'est pas son sujet, les précieuses ridicules. Il s'en tape un peu, hein, pardon. Mais il n'a pas du tout d'histoire avec les précieuses ridicules. Corneille, en revanche, lui, il est très, très fâché avec les précieuses. Ces femmes qui l'ont rabattu dans son ignorance. Là, donc, lui, il a une vengeance à mettre en place. Oui.
D'accord. Donc, c'est un indice supplémentaire de la controverse que vous affichiez.
Ah, il y en a pas mal des indices. Oui. Moi, je suis assez amusée.
Il y a peut-être des contre-exemples. Parce que Corneille, n'avait pas beaucoup de problèmes avec les jansénistes, mais les religieux de l'époque. Alors que Molière a écrit Tartuffe, dans lequel il se moque des faux dévots. Et par conséquent, ça pourrait être un contre-exemple à votre argumentation. Mais bon.
C'est une commande du roi, Tartuffe. C'est le roi qui se venge.
Oui, mais il n'avait peut-être pas commandé comme ça et on a interprété les propos dans lesquels... Voilà.
Oui, bah, de toute façon, là où il ne l'a pas commandé comme ça, là, je vais vous rejoindre complètement, c'est que Molière avait une liberté. C'est ça que je voudrais mettre en place. Je voudrais réhabiliter Molière en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'il a une liberté de ton et les pièces qu'on joue aujourd'hui de Molière sont bien celles qui sortent du plateau, donc de la bouche des acteurs, alors que celles de Corneille sortent de son bureau, puisque Corneille ne voulait absolument pas qu'on... n'édite les pièces sorties du plateau qui étaient des fois avec un petit peu de liberté prises par les acteurs, mais les repassait toujours sous sa plume avec l'exigence de l'écriture. C'est ce qui les rend, à mon sens, à moi, moins vivantes et peut-être plus anciennes cette fois. Alors que Molière, il est très vivant, c'est jubilatoire, toujours.
D'autant plus qu'à l'époque, on éditait avec privilège du roi, n'est-ce pas ? Mais vous l'aurez compris, donc, chers amis, ce n'est pas du tout une manière de descendre Molière et de déboulonner une statue dans ce spectacle. Corneille, Molière, l'arrangement, pas du tout. C'est plutôt une controverse pour parler un petit peu d'un personnage qui nous tient à cœur malgré tout, que son théâtre nous ait ennuyé ou qu'au contraire, il nous ait fasciné. De toute façon, on y est tous passés et c'est un incontournable du théâtre français et de la culture française qu'on peut retrouver à 22h au théâtre L'Atelier Florentin. Et pour l'autre spectacle que vous venez représenter au Festival Off, c'est à 12h40 au même endroit, Atelier Florentin, avec Blanche Confession. Merci Valérie Durin d'être venue nous parler de ces deux spectacles. On vous souhaite que ça continue à fonctionner dans cette dernière semaine du festival. Et puis pour la suite, on vous souhaite le meilleur.
Merci infiniment.